L'invité du soir dans La Belle Antenne.
Cette année, c'est la 6e édition du festival Normandie Impressionniste et cette année donc, Claude Monet est à l'honneur. 2026 marque le centenaire de la disparition de Monet, donc peintre français et également l'un des fondateurs de l'impressionnisme. Et pour cette 6e édition du festival, c'est un hommage contemporain à cet artiste qui est mis à l'honneur. Et finalement, qui de mieux pour parler de ce festival que le directeur artistique de ce dernier, Philippe Platel, pardon, donc directeur général et artistique du festival, est avec nous ce soir. Bonsoir.
Bonsoir Flavie.
Alors, est-ce que, pour remettre un peu de contexte, tu peux nous expliquer ce que c'est que ce festival, depuis quand il existe ?
Alors, c'est un festival qui a 15 ans, qui a été créé par les collectivités de Normandie pour rappeler l'importance de la Normandie dans la jeunesse du mouvement impressionniste, hein, puisque effectivement, cette région, elle a vu venir tous les artistes du mouvement impressionniste. À différents degrés, et celui qui nous intéresse en 2026, Monet encore plus, puisqu'il y a passé vraiment une grande partie de sa vie, de sa jeunesse jusqu'au Havre, en passant par Rouen où il allait souvent, et puis pour finir 43 années ensuite à Giverny. Donc c'est ça le jeunesse de ce festival. Ensuite, donc c'est devenu un festival qui s'est de plus en plus ouvert très vite, hein, à autre chose que simplement l'impressionnisme, à beaucoup d'art contemporain et à des formes aussi plus pluridisciplinaires. Et donc moi j'en ai pris la direction il y a 5 ans et avec une volonté partagée par les collectivités qui nous suivent de mettre plus de projets ambitieux d'art contemporain, toujours plus de pluridisciplinaire, vraiment de s'ouvrir aussi à l'espace public, de créer des moments festifs, de s'ouvrir à un public large. Et donc, c'est ce que j'ai fait déjà en 2024 avec cette édition un peu historique. Bon, là, on célébrait les 150 ans du mouvement en 2024 avec 150 projets dans toute la Normandie. Ça a été un record historique avec 2 millions de visiteurs. Et puis une grande diversification de nos publics. On s'est vraiment ouvert à une nouvelle démographie de visiteurs, avec des plus jeunes, des plus familiaux, en étant présents dans des lieux plus inattendus que les lieux de culture, dans lesquels bien entendu le festival est présent aussi, hein, parce qu'on ne peut pas parler d'impressionnisme sans embarquer notamment les musées, qui ont des très riches collections en Normandie, et puis qui produisent des expositions de très grande qualité à chaque édition Normandie impressionniste, où il y a de l'historique et du contemporain. En 2026, on innove, alors ce sera un rythme, ça permet d'installer un rythme, une alternance de grandes éditions historiques et contemporaines, c'est ce qu'on a fait en 2024, et d'éditions hommages, avec 100% d'artistes contemporains, qui rendent hommage à un artiste ou à une œuvre. Donc là, c'est Claude Monet. Donc voilà, donc ça a du sens d'inviter des artistes d'aujourd'hui à répondre à ce très grand nom, ce maître absolu qu'est Claude Monet dans l'histoire de l'art. La grande spécificité aussi de ce festival dans le paysage culturel français, c'est qu'il est présent dans toute une région. Ça, c'est assez rare. Un festival qui assume totalement, hein, d'être un festival d'une région entière et d'être présent dans toutes les grandes villes, les plus petites villes, des villages et même perdus au milieu de nulle part parfois, pour atteindre aussi par ce maillage du territoire un public le plus large possible, à la fois national, international, de touristes, etc., mais aussi avec une prédominance de publics locaux qui s'emparent de cette programmation qui est toujours plus ou moins proche de chez eux, puisque chez eux et chez elles, puisque, comme je l'ai dit, on est présent dans toute la Normandie. Donc ça, c'est assez unique dans le paysage en France.
Et donc, quelles sont les valeurs et les missions, un peu plus à proprement parler, du festival ?
Alors, je vais répondre en un seul geste sur mission et valeurs, parce que c'est peut-être un peu la même chose sur ce que je vais dire, mais pour nous, ça se résume en ambition et en générosité. Moi, j'utilise souvent ces mots-là. C'est-à-dire que les projets de Normandie impressionniste doivent être exceptionnels, hors normes. On a un soutien financier de nos collectivités pour faire des choses impactante et de faire des choses qu'on ne peut pas voir à un autre moment. C'est aussi la définition d'un festival. C'est que c'est, quand on dit c'est le festival, ça veut dire que c'est vraiment le moment où il se passe des choses qui ne se passent pas d'habitude. Donc, l'idée, ce n'est pas de simplement être un financeur pour faire des projets qu'on pourrait voir à n'importe quel autre moment de l'année en Normandie. On n'est pas là pour ça. On n'est pas une source de financement complémentaire pour des projets. On est vraiment là pour inciter l'ensemble du tissu culturel de la Normandie à faire preuve d'ambition, à proposer des grands projets, et puis nous-mêmes à en initier toujours en partenariat avec les acteurs du territoire. Donc ça, c'est l'ambition. Et la générosité, ou l'ouverture aussi, c'est qu'une grande partie de nos projets sont très accessibles, gratuits. 50%, plus de 50% de nos projets sont gratuits, en étant dans l'espace public, en étant dans des lieux qui ne sont pas des lieux de culture, une patinoire par exemple en 2024, une gare en 2026. Donc être au plus près de là où les publics sont pour attirer leur regard et les inciter ensuite à prendre conscience de la riche programmation d'un festival comme celui-ci pour aller dans les lieux de culture. Donc c'est ça, on navigue entre ça, entre l'ambition et la générosité. Après, évidemment, il y a l'ouverture internationale, ça c'est aussi une dimension importante. Souhaiter d'inviter des grands artistes internationaux en Normandie, parfois pour certains, pour la première fois, hein. Il y a des artistes qu'on invite qui ne sont jamais venus en Normandie, c'est une première fois. Et puis souvent, j'aime bien les inciter à faire des choses, puisque je parle de première fois, à les inciter à faire des choses qu'ils n'ont jamais faites aussi. En 2024, Bob Wilson, qui avait fait la projection sur la cathédrale de Rouen, il n'avait jamais fait ça. Donc voilà, Saïgo Tchang, qui a deux projets en Normandie, il s'empare de choses qu'il a déjà faites, mais jamais dans cette échelle ou alors avec cette thématique et dans un paysage comme celui-ci.
Et donc, tu parlais d'ouverture internationale. C'est vrai que là, pour cette année aussi, il y a des artistes internationaux qui sont mentionnés. Comment vous choisissez les artistes que vous intégrez donc à cette programmation, si je peux dire, du festival?
Alors, il y a différents canaux. Il y a le canal où moi, je prends contact avec des artistes, et il y a le canal où les acteurs du territoire prennent contact avec les artistes. Donc, sur cette partie-là, c'est plutôt eux qui prennent ces décisions sur la base de connaissances, de choses, d'envie de projets qu'ils ont envie de faire connaître dans leur lieu. Sur la partie que moi, j'initie plus, la sélection, elle est liée à différentes choses. Déjà, il y a quand même des critères, c'est-à-dire quel artiste a un travail qui peut aujourd'hui entrer en résonance avec une dimension impressionniste et vraiment avoir un dialogue avec cette histoire de l'impressionnisme, c'est-à-dire sur la lumière, sur l'éphémère, sur le rapport au paysage, sur le plein air, etc. Il y a plein de portes par lesquelles entrer dans cette question impressionniste. Et puis après, c'est aussi lié à des artistes pour lesquels j'arrive à facilement rentrer en contact, parce que des artistes de très grand renom, évidemment, c'est pas toujours simple de les mobiliser. Donc voilà. Après, il y a aussi parfois, donc là, je parle des artistes où je sens qu'il y a des gens qui ont quelque chose à dire sur cette question impressionniste, c'est-à-dire Saïgo Tchang sur l'éphémère, sur le paysage, sur les couleurs qui se mélangent pour devenir abstraites, etc. Bon, là, on est totalement dans la résonance à l'impressionnisme. Oliver Beer, c'était plus inattendu en 2024, puisque il travaille beaucoup sur le son, mais en fait, on a trouvé, il y a eu ce projet qui a émergé entre nous d'utiliser le son du bassin des Nymphéas pour créer des peintures qui reprennent un motif de Nymphéas grâce au son. Bon, ça paraît abstrait comme ça, dit à la radio, mais dans la réalité, c'était extrêmement brillant. Il y a aussi parfois des artistes qu'on n'attend pas forcément sur la question de l'impressionnisme, et puis qui finalement s'avèrent avoir quelque chose à dire, ou en tout cas à trouver dans l'impressionnisme un outil pour dire des choses. Par exemple, Ai Weiwei, qui présentera ses nymphéas en Lego monumentaux de 15 mètres de long avec 650 000 Lego chacun au MUMA du Havre. On n'attend pas du tout quelqu'un comme Ai Weiwei sur le sujet de l'impressionnisme. C'est un artiste chinois activiste, très politique, très militant, sur les migrations, qui fait des films, qui actuellement est en train d'en faire un sur l'Ukraine. Donc on l'attend sur des sujets d'actualité chauds, pas sur l'impressionnisme, qui est plus doux quand même que les thèmes que d'habitude il approche. Et en fait, ça a du sens pour lui parce que Sur ce sujet-là en particulier, il utilise l'impressionnisme pour parler de son père, qui était un grand poète, qui avait vécu en France, qui avait été très marqué par l'impressionnisme et qui avait dû brûler tous ses livres sur l'impressionnisme au moment de se faire exiler dans le nord de la Chine pendant la révolution culturelle. Donc, l'impressionnisme, c'est quelque chose qui l'a profondément marqué dans cette période où il n'avait plus le droit à la poésie, où il n'avait plus le droit à la rêverie. Et donc, il utilise le Lego aussi avec beaucoup d'ironie. Pour parler de la destruction du rêve aussi, de l'enfance. Hein. Il invoque son enfance quand il utilise les Legos, et puis il invoque aussi la consommation de masse. Hein. Donc c'est un immense artiste, Ai Weiwei. On l'attend pas sur l'impressionnisme, mais quand il s'en empare, il en fait une œuvre à plusieurs facettes qui dit énormément de choses simplement avec des gestes ultra simples. Hein. Ça, c'est toute la base de Ai Weiwei. Des gestes extrêmement simples. Extrêmement efficace, il a un discours totalement protéiforme.
Et donc cette année, c'est aussi l'art contemporain finalement qui est mis à l'honneur quand même. Et
Oui.
donc comment finalement aujourd'hui l'art contemporain globalement, j'ai envie de dire, est en lien direct avec l'impressionnisme et avec donc toute cette idée avec Claude Monet enfin pour le thème du festival finalement.
Alors bon, déjà, il y a un lien historique de certains artistes qui peuvent être dans la lignée de Monet par le cheminement de l'histoire d'une certaine forme de peinture qui a totalement hérité de Monet, qui est une peinture abstraite, d'abstraction lyrique ou d'expressionnisme abstrait américain, des Jackson Pollock, des John Mitchell, qui ont vraiment totalement hérité de la voie que Monet a ouverte au début du XXe siècle. Il a ouvert la voie à l'abstraction. Donc déjà, beaucoup d'artistes d'aujourd'hui qui pratiquent la peinture abstraite, chez certains, il y a un écho avec Monet. Parfois, donc il y a un lien historique, et puis il y a un lien totalement assumé chez certains, notamment Janaína Chépeu, qu'on présentera à Rouen dans le cadre du festival, qui a une peinture. Et une peinture totalement d'aujourd'hui, extrêmement, avec toute la fluidité, toute la complexité du propos, qui mélange l'humain, le végétal, l'aquatique, dans une forme totalement abstraite, hein, mais qui est totalement, on est totalement chez Monet, quoi. Les immenses peintures de Janaína Chépeu sont très, très inspirées de Monet. Après, tous les artistes contemporains ne s'intéressent pas à Monet, hein, heureusement, il y a d'autres sujets. Dans le monde aujourd'hui, il y a des sujets, comme tout à l'heure, je parlais de sujets plus chauds pour Ai Weiwei, ben, il y a des sujets aussi plus chauds. Mais il y a aussi le grand retour de la peinture. Hein. Pendant des années, dans le monde, la peinture avait complètement disparu hein, de la création contemporaine. Et maintenant, ça fait maintenant quelques années quand même, mais majoritairement de la peinture dans les grandes foires d'art contemporain et dans les galeries d'art, il y a énormément de peinture. Donc, bah, forcément, quand la peinture revient, on repense à l'histoire de la peinture. Et dans l'histoire de la peinture proche, l'impressionnisme, comme je l'ai déjà dit, a ouvert pas mal de vannes créatives aux artistes d'aujourd'hui. Maintenant, évidemment, toutes les peintures ne se revendiquent pas de l'impressionnisme, là encore. Même certains artistes disent même hein, que ils en ont un peu marre de l'impressionnisme parce que pendant leurs études, on n'y échappe pas, on parle beaucoup, beaucoup de l'impressionnisme, et que parfois certains jeunes artistes disent, en fait, nous, ça nous pèse un peu de toujours nous ramener à l'impressionnisme, comme si on n'était pas capable, nous, artistes d'aujourd'hui, de chercher notre propre voie de façon totalement indépendante de l'histoire de l'art, et notamment de l'impressionnisme. Donc, un artiste qui fait de la peinture, qui aborde la couleur, qui aborde la nature, il ne faut pas non plus toujours le rapprocher de l'impressionnisme. Hein. Il y a des artistes aussi aujourd'hui qui ont une vie totalement indépendante de cette histoire de l'art. Donc voilà, les artistes contemporains ont un rapport à l'histoire qui est à géométrie variable. C'est toujours intéressant pour un artiste de se positionner dans l'histoire de l'art, hein, parce que ça institutionnalise quelque part un travail. Mais aussi, beaucoup souhaitent montrer leur indépendance face à cette histoire de l'art. Et montrer, parce que si on rapprochait tout ce que tous les artistes font de l'histoire de l'art, et en disant, ah, ben, ils font comme il y a 100 ans, ben, on progresserait pas. Et par exemple, si on avait dit ça de Monet, ah, ben, il fait comme il y a 100 ans, ben, c'est précisément ce que Monet n'a pas fait. Monet, il a créé une cassure dans l'histoire de l'art. Monet et les impressionnistes, ils ont opéré une révolution et ils ont refusé tous les prérequis de l'histoire de l'art. Et en même temps, on peut jamais totalement s'en détacher. Quand on représente des jeunes femmes alanguies dans l'herbe, etc., comme un Renoir, bah, on est obligé forcément de penser aux nymphes de Poussin ou que sais-je, quoi. Enfin, il n'y a pas l'histoire de l'art, elle est quand même alimentée comme de l'histoire tout court et comme notre histoire, notre psyché, elle est alimentée de mythes, d'histoires, de légendes dont on peut pas toujours se défaire. Donc même quand on représente la vie quotidienne comme l'ont fait les impressionnistes, et c'était une grande révolution pour eux, pour leurs contemporains, de représenter des gens dans des guinguettes plutôt que de représenter des nymphes ou des dieux. Ça, c'était une grande révolution. Bah, au bout d'un moment, quand même, il y a toujours un petit retour de la mythologie, des grandes figures, chez Renoir notamment.
Les éditions ne portent pas uniquement sur Claude Monet, il y a aussi des artistes internationaux, comme par exemple quatre artistes asiatiques. Quel est le lien finalement avec l'impressionnisme et Monet, enfin le rapport avec cette idée de la scène asiatique, enfin la scène artistique asiatique?
En fait, on ne peut pas parler de Monet sans parler du Japon, tout d'abord, parce que il l'a dit lui-même, hein, Monet, je dois tellement au Japon. Et c'est une réalité, parce qu'il était pris dans cette grande tendance très, très à la mode au 19e siècle du japonisme, lié à la réouverture du Japon aux échanges avec l'Occident. Et donc, des estampes sont arrivées en France, et puis pas que, hein, aussi des objets. De la mode, tout un tas de choses qui ont créé un engouement pour le Japon. Donc, on s'habillait en japonaise, évidemment, on buvait son thé dans des céréales japonaises, etc., des faïences japonaises. Donc, Monet, il est dans cet univers, et la découverte des estampes japonaises a été un véritable choc, parce qu'il y a découvert une manière de représenter le paysage totalement méconnu en Occident, sans perspective, avec dans des grands aplats. Voilà. Donc il a été très influencé par le Japon. Donc quand on parle de l'impressionnisme et de Monet, on doit parler du Japon. Donc là, on a effectivement deux artistes japonaises de deux générations différentes, hein, Mika Ninagawa et Fujiko Nakaya. Mika Ninagawa, c'est une photographe starissime sur les réseaux sociaux et notamment en Asie, 1 million de followers, très, 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 très populaire, travaille beaucoup sur les fleurs et avec un univers très pop, très coloré. Donc elle va s'emparer, après Bob Wilson en 2024, de la projection sur la cathédrale de Rouen, quelque chose qu'elle n'avait jamais faite. Donc c'est un vrai challenge, hein. Mais elle a cette capacité de générer une imagerie qui, en plus, donc résonne bien avec Monet. Quand elle est venue à Giverny, elle pleurait presque, tellement elle était émue d'être dans cet endroit qui est mythique pour les Japonais. Donc le lien Monet, l'impressionnisme Japon, il est évident. Et puis après, donc l'Asie plus largement, ah oui, j'ai oublié de mentionner Fujiko Nakaya, autre génération, 92 ans, grande dame de l'art environnemental, qui fait des brouillards artificiels dans la nature qui résonnent avec des paysages. Et là, je l'ai invitée à venir à Honfleur, là où Monet a appris à peindre avec Boudin et notamment les nuages. Donc ça va être très émouvant. Et puis, elle est née seulement 8 ans après la mort de Monet, en plus. Donc, ça, grande dame de l'éphémère, hein, et du travail avec la nature. Et puis, plus largement l'Asie, donc la Chine, avec des artistes d'origine chinoise, Taiko Chang et Ai Weiwei, qui sont maintenant surtout internationaux, hein, ils ne vivent plus en Chine, hein. Il s'agit d'énormes stars internationales et dont le travail offre un dialogue très intéressant avec Monet. J'ai déjà mentionné, je les ai déjà mentionnés tous les deux, sur chacun des projets qu'on présente. Ça a totalement du sens. Mais par ailleurs, comme notre thématique, on a oublié d'en parler, mais comme notre thématique de cette édition, c'est le jardin, pour faire des références à Monet et à Giverny, bien sûr, la manière de concevoir le jardin en Asie, elle est très importante aussi, hein. Il y a une dimension très spirituelle dont Monet a totalement hérité. Giverny, c'est une approche très méditative, spirituelle. Il y a passé 43 ans, et puis à la fin, il n'a fait plus qu'une seule chose, c'est de représenter son bassin des nymphéas. C'est fou, quoi. Pendant des années et des années, à reproduire le même motif, ce bassin si japonisant, si asiatique. dans sa manière d'être, d'avoir été conçu. Donc voilà, c'est une évidence. Le Japon pour le lien avec Monet, l'Asie plus largement pour le lien au rapport méditatif avec la nature et le jardin.
Et également, au-delà de l'Asie, il y a aussi quatre artistes du Pays-Bas qui
Oui.
sont là. Et donc, c'est quoi aussi le lien avec cette scène néerlandaise en plus? Est-ce que c'est aussi l'idée du jardin qui est peut-être mise en avant d'une manière différente, mais qui ferait aussi écho avec Monet?
Oui, alors il y a un peu les deux. Il y a le jardin, effectivement. Le jardin, c'est aussi très important aux Pays-Bas. Actuellement, il y a l'explosion de tulipes un peu partout aux alentours d'Amsterdam qui crée un véritable raz-de-marée de touristes. Donc, le jardin et le Pays-Bas, c'est toute une histoire. Et puis, c'est aussi toute une histoire entre Amsterdam et Monet, puisque dans Monet, après avoir vécu à Londres, au retour vers la France, s'est arrêté à Amsterdam pendant quelques mois et ça a été un passage aussi très marquant pour sa manière de représenter les reflets dans l'eau. Enfin, ça a encore été un autre univers dans lequel il a pu se ressourcer. Donc, c'était important aussi d'avoir ce clin d'œil avec une scène par ailleurs, la scène néerlandaise, qui est extrêmement innovante. Et l'innovation, c'est une partie essentielle pour comprendre l'impressionnisme. Hein, opérer des révolutions, chercher, être audacieux. Et l'audace, l'aventure, cet esprit d'aventure artistique, il est partout sur la scène artistique néerlandaise. Vraiment, on voit aux Pays-Bas des choses très, très inattendues, tout le temps inattendues.
Avant de se quitter, est-ce que tu peux nous expliquer un peu le déroulement du parcours, entre guillemets, du festival, comment ça va se faire?
Il y a 75 projets dans toute la Normandie. Donc notre programme sera bientôt diffusé, le site internet sera bientôt disponible, et après chacun en fait peut construire son parcours comme il le souhaite entre les différentes villes, les différents événements. Donc évidemment il y a beaucoup de choses dans les grandes villes, mais pas que. Donc nous aussi on suggère des parcours qui sont liés à la présence de nos événements dans certains territoires. Donc ça on est en train de les finaliser pour qu'ils soient présents sur le Enfin, ils sont finalisés, mais le site est en train d'être refondu. Et sur notre site, il y aura des propositions de parcours qui permettent de joindre le culturel au touristique ou à l'aventure, et autant que possible en prenant les transports en commun, le train, les bus, etc. Donc, on essaye de guider, les visiteurs pour construire des parcours, mais chacun est libre de faire comme il le souhaite. Il peut venir, chacune peut venir 1, 2, 3, 5, 7, 10 jours, en Normandie. Il y a tellement à voir, et puis c'est toujours l'occasion de redécouvrir une région avec des nouvelles choses. On essaye aussi souvent d'ouvrir des nouveaux lieux. Par exemple, là, je pense, puisqu'on a évoqué la scène néerlandaise, donc il y a ce studio de design, Drift, qui est génialissime, avec ses lustres fleurs absolument poétiques. On montre ça à l'église Sainte-Croix des Pelletiers à Rouen, qui est un lieu qui a été fermé au public pendant des années. Donc là, il est rouvert par la ville, exceptionnellement pour le festival. Donc ça, c'est aussi c'est une manière de montrer des nouvelles choses dans des nouveaux lieux aussi parfois. On aura une très belle vidéo de Jacques Perconte, monumentale de 5 mètres de long à la gare de Rouen. Alors la gare de Rouen, pour le coup, c'est pas un nouveau lieu. Il y a 9 millions de personnes qui y passent tous les ans. En revanche, ce qui est nouveau, c'est d'y avoir une vidéo monumentale en accueil de voyageurs. Ça va être assez beau pendant les 2 mois de juillet et août. Voilà. Après, puisque je parle de Jacques Perconte, il y a aussi une très jolie exposition à Varengeville. Donc après, il y a l'axe Seine, on va dire, qui est un peu la ligne de vie de Monet. Donc il y a beaucoup de projets tout le long de la Seine. Donc ça peut être une idée de parcours, par exemple, de passer de Vernon-Giverny à Rouen, puis au Havre, en passant peut-être par Yvetot, ou alors par les boucles de la Seine. Il y a un très joli projet à Saint-Georges-de-Beaucherville, pour finir jusqu'au Havre. Ou alors on peut suivre le littoral aussi, hein, d'Étretat au Havre, puis Honfleur, Deauville. On peut décider d'aller plus haut et d'aller à Varengeville. Donc il y a 1000 possibilités. On peut passer dans le sud de la Normandie en s'arrêtant bien entendu à Caen, et pour aller ensuite au Mont-Saint-Michel, on aura cette ex éblouissante exposition de Saïd Chiang. qui réalise des peintures à l'explosif, et il les a réalisées en s'inspirant de Monet et de Giverny. Il va réaliser une partie de cette série à Vernon. Ça, et donc la rencontre d'un immense artiste avec un monument aussi iconique que le Mont-Saint-Michel, ça aussi c'est inratable. Donc voilà, il y a plein, on peut, il y a plein de parcours possibles. Chacun peut le construire à sa guise en fait, mais et nous on va guider un petit peu avec des recommandations.
Et donc, au niveau des dates, comment ça se passe pour ce festival?
Comment ça se passe? Ben, en fait, presque tout ouvre à partir du 29 mai. Il y a quelques événements qui ouvrent un peu avant. Donc ça, dès la fin de la semaine prochaine, le programme sera sur le site normandie-impressionniste.fr. Et donc là, on pourra voir régulièrement ce qui ouvre. Et puis on a aussi nos réseaux sociaux qui vont bien tenir informé tout le monde de l'ouverture des événements. Mais sinon, globalement, à partir du 29 mai, presque tout ouvre. Le Mont-Saint-Michel ouvre un petit peu après, mais le MUMA ouvre un tout petit peu après. Mais globalement, tout ouvre fin mai, début juin, en gros. La seule chose qui sera un peu plus ciblée sur l'été, juillet, août, c'est la projection dans la cathédrale, dans la gare de Rouen. Et on va jusqu'au 27 septembre, globalement, sauf exception. Par exemple, le Mont-Saint-Michel, ça finit fin août. Voilà, il faut bien vérifier sur le site les dates.
Et donc sur le site aussi, on peut trouver évidemment les différents tarifs pour les choses qui peuvent être payantes et puis toutes les informations ainsi que donc tout le, pas le parcours, mais du moins toutes les activités qui sont possibles dans toute, finalement, toute la région de la Normandie. Merci beaucoup Philippe Latelle d'avoir été avec nous ce soir dans cette émission de La Belle Antenne. Et donc n'hésitez pas à aller sur le site de normandie-impressionniste.fr pour avoir toutes les informations si jamais vous les avez loupées. Et donc à très vite Philippe, et puis merci beaucoup.
Merci, merci beaucoup.
À bientôt.
À bientôt.